Appauvrissement institutionnalisé, automatique, prédéterminé, inconscient mais réel. Comme vu dans le chapitre précédent, l'appauvrissement incidentiel existe bel et bien. Ce problème est institutionnalisé par une législation savamment montée et incrustée dans des lois. Le problème vient peut-être de l'origine des parlementaires et des partis politiques. Des hommes d'affaires et des industriels ont donné une impulsion orientée à l'organisation sociale au moment où tout était possible et permis. On pouvait développer l'industrialisation et croître par bénéfice sans trop s'occuper de la pollution et de la compétition et sans craindre d'appauvrir les concitoyens. Au contraire, cela entraînait leur prospérité et donnait l'espoir d'un monde meilleur, mais orienté par eux. Les effets négatifs ne pouvaient pas être vraiment discernés et le pli a été donné à la société. Le travail des autres pouvait profiter en dehors de toute idée d'imposition. L'investissement pouvait apparaître et rapporter. C'était très certainement louable, même si certains pensaient déjà principalement à leur intérêt. Mais déjà, ces gens s'appropriaient certains acquis de civilisation pour que cela profite à des chefs d'entreprise et à tout un monde patronal qui en ferait un usage original et bien synthétisé dans un ensemble intégré. Déjà, le train était en marche. Le bien populaire existait dans la mesure où on obtenait des travailleurs en quantité suffisante et qu'ils surgissaient parallèlement sans créer de problèmes majeurs au monde patronal. Puis vint la détermination patronale des prix et des salaires basés sur leur bon sens. La manipulation de l'activité populaire commençait et s'orientait en fonction d'une économie patronale en primauté. Et un début de fonctionnement législatif couronnait le tout par des règlements et des lois améliorées et ajustées par eux. Un souci véritable pour le bien commun et le bien-être des gens vint donner du goût à leur travail et à leur groupement tout en le modifiant légèrement et lentement. L'intervention cléricale et son activité globale aidèrent grandement cette amélioration. Mais l'institutionnalisation de l'impulsion initiale s'incrusta quand même et les effets invisibles et imperceptibles à l'époque s'accumulaient et se développaient. Qui sont les véritables possesseurs de la politique et des gouvernements actuels? On peut se le demander. Mais chacun s'en fera une idée personnelle. Cependant, les réactions et les soubresauts de l'économie, manipulés par le monde patronal, devant la menace de groupes originaux s'immisçant dans le monde politique et gouvernemental, montrent bien l'influence orientée et déterminante des vrais chefs de notre société dans sa constitution actuelle. La loi du plus fort se perpétue encore, et les groupes qui arrivent tant soit peu à s'imposer et à prendre leur place sous le soleil, comme les mouvements syndicaux, le font au détriment des moins bien nantis. Ces derniers voient les prix grimper plus vite que leur salaire, sans qu'ils puissent faire imposer leur point de vue ou leur revendication. Mais la société fonctionne avec les plus forts d'abord et elle s'occupe ensuite des plus faibles quand ses remords deviennent trop criants. Quand on sait que la loi initiale prévoyait que pour devenir candidat à une élection, il fallait être possesseur d'un bâtiment ayant une valeur minimale X, on comprend immédiatement quels intérêts étaient protégés et appelés à croître en premier. Cela explique un peu ce qu'était la situation des locataires par rapport à celle des propriétaires, individuellement ou collectivement parlant, à travers les époques. La manipulation des échanges entre les Indiens du Canada et les arrivants au Nouveau Monde donnait un avant-goût du type d'exploitation qui s'est installé sur la planète et qui s'est institutionnalisé. La démesure existe toujours dans le monde économique. Remarquez que les vaches à lait ont toujours existé.